conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Oui, effectivement, on avait arrêté les interviews fin février, début mars. Et puis, à part de visio, ça s'était arrêté. On recommence en cette rentrée formidable, plein d'énergie. Et j'ai décidé de recevoir un architecte. Il me paraissait extrêmement important dans cette période post-Covid de recevoir un architecte dans la ligne des quarantenaires. Et donc, je reçois l'agence Gaëtan Engasser. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Myriam.
Alors, on va commencer un petit peu par, l'actu post-Covid et puis évidemment l'actu de l'agence. Vous avez repris en présentiel, je suppose. Et alors, du coup, comment s'est passé le confinement ?
Alors, on a repris un présentiel tous. On est tous aujourd'hui de retour. C'était une période qui était épuisante pour nous à plusieurs titres. On est une trentaine à l'agence, donc gérer 30 collaborateurs à distance, c'était très compliqué. Ça a été aussi révélateur de plein de choses.
Oui, justement, un petit peu comme ça,
on
débrief.
On a déjà, je pense... de manière accélérée, dû s'adapter à des nouveaux modes de travailler ensemble. Donc on a des logiciels, des applications qu'on n'utilisait pas avant. Donc ça a quand même été une adaptation forte. Et je pense que ça a été révélateur aussi à plusieurs titres pour nous, au niveau au sein des collaborateurs. C'est quand même une agence, c'est un collectif. Donc,
qui est autonome, qui ne l'est pas,
voilà,
qui s'adapte.
Ça permet de voir qui s'engage vraiment, sur qui on peut compter vraiment. Et ça, c'est quand même... c'était important pour nous. C'est aussi révélateur sur...
sur les maîtres d'ouvrage aussi.
Les maîtres d'ouvrage et j'allais dire les différentes catégories de métiers, en fait, sur les métiers. On a des interlocuteurs... qui était soit complètement absent, c'était très compliqué aussi avec déposer un permis ou des autorisations administratives pendant toute cette période, c'était impossible. Il y a certains métiers qui étaient complètement absents, qui étaient complètement fermés. Donc il y a eu des métiers où il y a eu une généralisation un peu de chômage partiel. Nous, on a plutôt été, je pense, en architecture... beaucoup sur du télétravail et au final avec très peu de postes touchés, et plutôt une continuité de la production, sachant que les champs un peu les plus touchés, c'était le chantier. Très vite, les chantiers se sont arrêtés. Donc au bout d'un moment, on n'a plus trop de force de viser des plans et on est obligé de poser le crayon. Et puis là, peut-être le champ le plus compliqué, c'était les concours. La conception, ça reste encore quelque chose de collectif où on a besoin de calques, de crayons et d'être tous autour de la table.
C'était
très compliqué,
matière.
Ça, pour, à distance. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez tiré des enseignements, justement, par rapport à l'évolution du logement ? On a vu dans les médias pas mal d'articles sur un balcon en plus, plus de fenêtres, plus d'espace extérieur, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit vraiment tirer en urgence les enseignements de ce qui s'est passé et adapter notre conception, la conception du logement ? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire, de réfléchir ?
Alors, je pense que déjà, à titre personnel, c'était une période où on a forcément beaucoup fait d'introspection et de réflexion. Et je pense que la première et la plus importante, c'est déjà ce qu'on s'applique à soi-même. Ça nous a permis, nous, de repartir. Moi, j'ai toujours cru à la prospective. Et en fait, les temps de concours et de conception aujourd'hui sont tellement courts que je pense qu'on n'a pas le temps de le faire si on ne le fait pas à côté de manière un peu théorique. Et ça a peut-être exacerbé un peu ce champ-là. Nous, depuis la reprise, on essaye de donner un peu du temps de travail.
C'est-à-dire qu'il y a une cellule à l'agence qui est une cellule de réflexion, de recherche.
Avant, c'était peut-être, ça se faisait de manière un peu expérimentale. Aujourd'hui, On s'oblige tous à se prendre une demi-journée par semaine dans des ateliers thématiques qu'on veut être un vrai temps dans la production sur des thèmes qu'on développe. Et en fait, ça nous a permis de ressortir un peu des valises, des grandes thématiques sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années. Notamment, nous, à l'agence, on est spécialisés sur toutes les problématiques un peu écosystémiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec des écologues depuis longtemps. On ne fait plus aujourd'hui un bâtiment de logement sans rendre la cinquième façade, comme on appelle la toiture, accessible. Donc on théorise un peu ces choses-là sur l'économie de projet, combien ça coûte par logement, par opération. On se rend compte qu'en final, ça coûte très peu d'argent. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les AC, on est obligé de végétaliser, de déjà avoir des actions sur ces toitures.
C'est-à-dire que vous faites constamment maintenant la corrélation entre argent, coût et production architecturale et créativité ?
Tout à fait. Je pense que l'économie du projet, et surtout sur le logement, c'est central. On parle, pour ainsi dire, quasiment que de ça quand on fait du logement. Et de toute façon, la moindre action qu'on va mener sur un projet de logement, elle sera que justifiée sur cette problématique du coût global.
Donc en fait,
mais presque de manière systématique. Et en fait, nous, tous nos thèmes l'économie, c'est quelque chose qu'on a pratiquement inclus en interne à l'agence, parce qu'on pense que l'architecte doit être au cœur de la réflexion économique et pas juste donner lieu à un déshabillage de projet au moment de chiffrer ça avec une entreprise. Et en fait, tous les thèmes de recherche qu'on fait sont un peu liés à l'économie. C'est-à-dire un autre thème de recherche qui est pour nous presque le sujet pour le logement sur l'économie, c'est de travailler à des bâtiments qui sont beaucoup plus épais. On sait qu'un bâtiment de... En gros, aujourd'hui, on fait des bâtiments de 12 mètres avec des logements traversants qui sont de qualité.
De 14, on va dire.
Ou de 15-16 mètres qui sont tramés sur le parking, qui sont moins traversants, mais plus économiques. Et en Suisse, par exemple, les bâtiments de logement sont beaucoup plus épais parce qu'il y a plus de pièces humides. Et donc, on travaille aujourd'hui à développer des bâtiments...
humides et donc sans éclairage et ventilation naturelle.
Avec moins d'éclairage
naturel. C'est-à-dire qu'on considère de fait que la salle de bain, c'est obligatoirement sans éclairage et sans ventilation naturelle.
En Suisse, il y a souvent deux, trois pièces d'eau. Donc, ouais. Mais c'est effectivement des typologies qui sont faites comme
Suisse,
ça.
En Suisse, ils sont riches. Enfin, c'était une boutade. Mais c'est juste pour dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer des immeubles de logement aussi épais que des immeubles de bureaux sans avoir deux façades et de dire qu'on fait des immeubles de logement de 18 mètres d'épaisseur dans lequel on met donc obligatoirement les toilettes, la salle de bain, la cuisine, ni éclairées, ni ventilées naturellement. Et on pense que c'est des produits qui sont demain acceptables ou utilisables ou appropriables par les utilisateurs ?
Alors, le sujet de la lumière naturelle, c'est les linéaires de façade. Hein, donc ça, c'est effectivement important. Une des thématiques liées à l'épaisseur, c'est effectivement de réussir à faire des bâtiments qui peuvent s'adapter à plusieurs fonctionnalités dans le temps et pas qu'à une seule. Sachant que pour l'instant, c'est plutôt 16 à 18 mètres. Au-delà, on ne sait pas faire. Et je pense qu'il y a possibilité d'inventer des typologies de logements qui vont au-delà. Aujourd'hui, on essaie, nous, de faire des bâtiments de 20, 22 mètres, tout en travaillant des linéaires de façade avec beaucoup de lumière naturelle. C'est-à-dire que c'est des façades qui sont pas lisses, qui sont plutôt en redans. Mais ça, c'est pour nous une des seules possibilités de baisser le coût.
Plus important.
Voilà, un linéaire de façade, en fait, égal à un bâtiment de 16 mètres, vu qu'on est plus épais, mais avec une modénature de façade sur un linéaire égal qui est quand même assez expressif, quoi, on va dire. Parce qu'il a une modénature un peu profonde.
Bon, à la radio, c'est toujours un peu compliqué de montrer des images, mais le moment venu, je pense que vous saurez montrer ces images-là avec des bâtiments de logement de 22 mètres et une seule façade, mais avec des redons. On va peut-être pas rester dans un langage aussi technique pour les auditeurs, mais donc ça veut dire que vous avez créé à l'agence et vous décidez une après-midi par semaine d'être dans la recherche et de monopoliser les collaborateurs sur cette idée de recherche avec des thématiques, avec des ateliers. Est-ce que c'est lié à chaque fois aux thématiques ou aux projets qui sont en cours, hein?
Alors, c'est plutôt lié à des thématiques externes au projet. Donc, quelques sujets sur habiter autrement, ça en fait partie. C'est aussi sur des process d'agence. C'est le moment aussi où on invente un peu nos outils informatiques, notre méthode de travail. Donc on peut très bien travailler par exemple sur l'analyse des offres, l'économie, comment on travaille sur l'économie et le chiffrage d'un projet. Donc c'est assez transversal et en fait c'est plutôt sous forme de thématique.
Et alors, je suppose que ces demi-journées sont payées, c'est-à-dire, vous rassurez-moi, c'est pas...
Tout à fait,
c'est bon, un... C'est-à-dire que la réflexion et la pensée fait partie du...
C'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on faisait pas assez avant. On le faisait de manière très ponctuelle, plutôt sur des interstices entre deux projets quand on avait des moments creux. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible... Il faut le faire de manière prégnante et beaucoup plus. Et en fait, si on ne le fait pas dans ces temps-là, on n'a pas le temps. Après, c'est de la matière grise qu'on réinjecte en fait dans les projets, dans les concours.
Alors, est-ce que ça veut dire que les promoteurs adhèrent à cette manière de faire? Parce que c'est très bien d'avoir des idées, labos, recherches, on phosphorise, etc., etc. Quelle est la manière
En fait, ils adhèrent forcément. C'est-à-dire quand on va les voir dans les démarches commerciales, on sait qu'aujourd'hui, il faut aller rencontrer des gens. Ça nous donne aussi de la matière grise pour présenter des idées et pas juste des références.
Et des idées avec les coûts derrière, c'est-à-dire en disant
tout à fait,
ça ne va pas vous coûter plus cher.
Avec une analyse complètement intégrée sur l'aspect financier. Un autre exemple, nous, on travaille depuis une dizaine d'années sur développer la ville hybride, des bâtiments hybrides. Et aujourd'hui, derrière les élections fraîchement finalisées, les communes sont très intéressées par des projets mixtes avec un petit équipement public lié à des logements qui permet aussi des concertations avec la population beaucoup plus faciles, des contextes urbains où, quand deux programmes sont imbriqués, on a plus de facilité à les mettre en œuvre et des liaisons économiques entre les programmes qui sont intéressantes.
Bon, ben c'est formidable, c'est ça. On a abordé quand même pas mal de choses. Ben, merci Gaëtan, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Et je le dis déjà aux auditeurs, on va continuer une deuxième interview de Gaëtan et de l'agence pour parler un petit peu plus de son actu et de tous les projets qui sont mis en place et les concours à venir sur lesquels vous attendez quelques réponses. Merci chers auditeurs et ravi de vous retrouver.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.